Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus dans cette émission au fil des pages consacrée à la lecture, aux livres, aux éditions, etc. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour la troisième fois, je crois, ou quatrième fois, Cécile Masson, directrice des éditions Palanquet. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous accueillir. Ça fait un bail que vous n'avez pas pu venir à Nîmes pour enregistrer. Mais là, merci de consacrer un peu de temps pour parler d'un des derniers livres que vous avez publié, parce que vous en avez publié déjà beaucoup. J'aimerais peut-être qu'on revienne un tout petit peu sur l'histoire de votre maison.
Oui, les éditions Palanquet sont nées en 2016.
Oui.
Et donc, 8 ans d'existence, un peu plus. Et en 8 ans, on a édité 17 livres.
Ah bien. Vous êtes basé où ?
On est basé dans la région lyonnaise,
oui.
À Villeurbanne. Alors, voilà, mais moi, je suis d'origine nimoise, donc attachée à la région.
Et une maison d'édition, ça consiste en quoi, en fait ?
C'est essentiellement choisir des manuscrits qui nous intéressent, des auteurs, des sujets, et puis en faire des livres, et puis ensuite les diffuser.
Alors, vous recevez des manuscrits. Qui est-ce qui vous envoie des manuscrits ?
Alors, au départ, pour démarrer, je n'étais pas connue, donc c'est moi qui suis allée à la recherche d'auteurs. Et puis maintenant, effectivement, le bouche à oreille fonctionne. Les auteurs parlent à d'autres personnes ou bien des gens qui ont lu aussi des livres et qui ont envie d'écrire à leur tour. Donc maintenant, effectivement, je reçois de plein de moyens différents.
Oui. Alors, vous recevez des manuscrits de différentes tailles, Vous exigez une présentation particulière pour les manuscrits que vous recevez ?
Alors, j'ai une ligne éditoriale qui se divise en trois axes différents. Des biographies, d'abord, de personnages contemporains, inspirants, peu connus.
Oui.
Des essais aussi, qui sont en lien avec la spiritualité chrétienne.
Oui.
Et puis, des livres pour enfants. Donc, pas pour les tout-petits, mais à partir de 5-6 ans. Et puis, pour les ados aussi, des histoires qui transmettent des belles valeurs que j'ai envie de partager.
Et la longueur des manuscrits peut varier, c'est...
Oui, la longueur est variable. Donc pour les livres pour enfants, il y a des collections, donc il faut rentrer dans le cadre des collections existantes. Donc là, il y a un peu plus de contraintes de longueur. Donc c'est une trentaine de pages pour les albums jeunesse.
Avec des illustrations aussi ?
Alors les illustrations sont faites en général dans un deuxième temps. Donc, je reçois d'abord les histoires et puis ensuite, avec l'auteur, on choisit ensemble un illustrateur qui va illustrer le livre.
Et quand vous dites « on va choisir », alors vous avez vous n'êtes pas seul, j'imagine, vous avez des collaborateurs ou collaboratrices qui lisent, qui regardent avec vous ?
J'ai des personnes en qui j'ai confiance, à qui je demande leur avis, mais c'est vrai que c'est moi qui tranche
c'est
dernier.
Vous qui tranche, Et alors, combien de temps ça met entre la rédaction quelqu'un vous confie un manuscrit, si vous devez l'accepter, combien de temps ça prend pour être édité ?
C'est un temps qui paraît toujours long aux auteurs, parce que c'est un minimum de un an à partir du moment où le texte est vraiment terminé. Donc, des fois, il faut en plus reprendre le texte, le retoucher. Donc,
il y a un rapport entre l'écrivain ou l'écrivaine et vous-même.
Oui.
Une fois que vous recevez le texte, vous avez votre mot à dire.
Bien, c'est vrai
comme un producteur de cinéma, c'est ça ?
Un petit peu. Ça dépend aussi des livres. Il y en a qui sont, on va dire, totalement terminés, où il y a juste quelques petites corrections. Mais il y en a d'autres qui sont plus à l'état de projet et sur lesquels il y a une vraie collaboration au niveau de l'écriture, oui.
Oui. Alors, vous demandez éventuellement des petits changements de forme
Ça peut arriver, oui, ou de bien positionner au moment où l'auteur écrit, à qui il va s'adresser, par exemple, à cibler un public particulier.
Et puis, alors, il y a l'orthographe.
Oui, bien sûr, ça c'est...
Alors, l'orthographe, qu'est-ce qui s'en charge alors ? Si vous avez des correcteurs ou des correctrices, ou c'est vous-même, ou c'est l'auteur que vous le renvoyez en disant « mais corrige ta copie ».
Non, il y a toujours un deuxième niveau de correction. L'auteur fait, bien sûr, plusieurs relectures, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui intervient en plus.
Oui.
Et c'est, jusqu'à présent, c'est moi qui fais la correction, la dernière correction, mais je peux me faire aider aussi sur certains points qui peuvent poser question fond. Voilà, et c'est peut-être quelque chose que je vais déléguer à l'avenir, mais oui, jusqu'à présent, c'est moi.
Mais c'est, en même temps, c'est important parce que la forme, la présentation d'un texte, c'est pas, enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi.
Bien sûr.
Et les gens sont très,
très
sensibles à ça.
Oui. Par contre, je ne fais pas la mise en page, donc il y a...
Oui, alors après, voilà. Ça c'était la première partie, vous recevez un texte, vous l'acceptez, et alors qu'est-ce que vous faites après de ce texte bien corrigé, etc.
Oui, ensuite, il est confié à un graphiste qui va mettre en page le livre.
Ah oui.
Voilà, donc c'est l'éditeur qui choisit le format du livre. S'il peut donner au graphiste des souhaits, par exemple, en termes de taille de caractère, de marge, de présentation.
Aussi, c'est vous qui choisissez, qui décidez.
Voilà, oui.
Lui, il y a un échange, j'imagine.
Il peut y avoir, voilà, bien sûr, le graphiste peut donner son avis, et c'est important, puisqu'il est spécialiste et il peut conseiller aussi à ce niveau. Et puis, il y a un échange aussi avec l'imprimeur.
Oui, alors après, le graphiste, lui, il ne fait pas l'imprimerie. Il met en page.
Il va faire simplement la mise en page et ensuite, quand la mise en page est prête, le fichier PDF est envoyé à l'imprimeur et l'imprimeur va imprimer. Mais du coup, au moment où on choisit le format du livre, l'imprimeur peut intervenir aussi, puisqu'on choisit le format aussi en fonction du coût final. Et le coût d'impression va aussi influer sur le nombre de pages, sur le papier qu'on va choisir.
Il y a le choix du papier aussi. Donc
tout se tient et il y a des dialogues à tous les niveaux pour... Ouais.
C'est un métier passionnant, mais pas toujours facile, j'imagine, parce que c'est un pari, en même temps, un livre.
Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est un pari et j'apprends tous les jours, je continue à apprendre parce que... Voilà.
Vous gagnez des paris, là, vous êtes contente des résultats que vous avez pour les premiers livres.
Alors, il y a toujours des écarts. Il y a des livres qui marchent mieux que d'autres, bien sûr, hein, mais il y en a certains qui ont très bien marché. Par exemple, le compost à émotions dont on avait parlé ici. Qui en est,
Pour un livre pour enfants, c'est
ça. Un livre pour enfants qui a très très bien fonctionné, qui vient d'être réimprimé, qui continue sa diffusion.
Écoutez, c'est intéressant de nous rappeler que derrière cet objet qu'on a dans les mains, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé, qui ont réfléchi et que vous en êtes la pièce maîtresse après le rédacteur, ou avec le rédacteur. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu avec un livre principalement. Vous en avez d'autres en tête dont vous nous parlerez peut-être. Mais vous nous avez proposé un livre de Thierry Tiertan, T-I-E-R-T-A-N-T, Thierry Tiertan, intitulé « La très naïve histoire de Darwin. Qu'en dit vraiment la science ?» C'est un livre assez important parce que je ne sais pas quel est le format de ce livre-là. Comment ça s'appelle ce format-là?
Il doit faire 15 par 21, quelque chose comme
15-21,
ça.
15-21, oui. Voilà, la moitié d'une page, d'une page A4, à peu près.
Ça ne tombe pas juste, voilà.
C'est un livre quand même de plus de près de 250 pages, 230 pages, je crois.
Un peu plus de 200 pages, c'est ça.
Oui, mais assez épais. Et qui correspond, je pense, à un des critères que vous avez évoqué. Vous avez parlé de la sensibilité chrétienne, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et c'est un livre qui s'ouvre directement, enfin qui ne cache pas effectivement que c'est quelque chose qui l'anime, cette foi chrétienne. Et il essaye donc, à partir de ce qu'il considère être la foi chrétienne, il a fait des études, visiblement, vous dites que c'est un autodidacte. Je pense qu'il a fait des études aussi, pas tout seul, non?
Alors, il s'est formé
dans
beaucoup de domaines.
Dans les universités. Effectivement, il y a un nombre de références très, très importantes. Il a bien étudié les sciences actuelles. Et il considère que... il parle de Darwin, c'est le titre, donc, que Darwin s'est trompé et qu'on peut montrer que la science montre que Darwin s'est trompé.
Alors c'est ça, il revient aux bases scientifiques en fait de la théorie de Darwin. Et effectivement, c'est un sujet qu'il a travaillé pendant une vingtaine d'années, qui est le fruit de ses recherches et de ses lectures très très nombreuses, pendant 20 ans à peu près. Et il part des arguments scientifiques en fait, puisqu'il est croyant, mais Ils considèrent qu'on ne peut pas en rester aux arguments de foi, ce n'est pas suffisant. Il faut aborder ces questions d'un point de vue rationnel et scientifique. Et effectivement, le livre s'appuie sur des arguments rationnels et scientifiques pour montrer que cette théorie a beaucoup de faiblesses et qu'on ne peut pas du tout la considérer aujourd'hui comme une théorie prouvée et comme quelque chose de sûr et certain, loin de là, très loin de là.
Alors peut-être il faudrait rappeler un tout petit peu, nous rappeler ensemble cette théorie de Darwin. Alors il faut peut-être par rapport à la France se rappeler qu'il y a eu le siècle des Lumières, il y a eu Diderot, il y a eu la grande encyclopédie de Diderot, et puis Lamarck est arrivé, Lamarck qui a réfléchi aussi d'un point de vue scientifique, un peu sur l'origine des espèces vivantes, on pourrait dire. Maintenant, sur le vivant, on a même des hésitations. Mais enfin, et puis, Darwin, un siècle après, à peu près, est arrivé, c'est bien ça ?
Oui, alors en fait, il montre que Darwin lui-même avait des doutes très importants quant à sa théorie, qu'il hésitait beaucoup à la publier, et que, en fait, c'est parce que d'autres menaçaient de publier avant lui que finalement il s'est décidé à le faire, mais avec beaucoup d'interrogations et sans être vraiment sûr lui-même. Et ce qui, à l'époque de Darwin, pouvait encore paraître une hypothèse vérifiable, eh ben aujourd'hui, on est un certain nombre d'années après et on s'aperçoit que les preuves dont on manquait ne sont pas apparues.
Oui.
Et qui était espéré au moment de Darwin et où on pouvait penser que les chaînons manquants, par exemple, on allait les trouver. Ben aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne les a jamais trouvés.
Alors, on va revenir dans un petit moment sur ce livre. On va faire une petite pause. Est-ce que vous avez une musique, l'idée d'une musique qu'on pourrait mettre ?
J'ai réfléchi, mais non, je suis désolée.
Alors, on demandera à nos techniciens et techniciennes de choisir une musique qui corresponde à cette réflexion à la fois scientifique et, on pourrait dire, religieuse ou théologique. Vous êtes toujours dans l'émission Au fil des pages sur Radio Alliance Plus, 103.2 à Nîmes. Je vous rappelle que notre émission est diffusée aussi sur le DAB+, et sur votre ordinateur, sur le site internet radioalliance-plus.fr. Nous sommes toujours avec Cécile Masson, qui est éditrice et directrice de la maison Édition Palanquet, basée à Lyon, et qui nous présente aujourd'hui le livre de Thierry Tertan, La très naïve histoire de Darwin, un livre qui a été publié, je crois, il y a quelques mois à peine.
Fin 2024.
Voilà,
oui.
Fin 2024. Alors, Cécile Masson, est-ce que vous voulez reprendre un peu le contenu de ce livre ?
Oui, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce manuscrit, c'est l'articulation que fait l'auteur entre la science et les philosophes. Parce qu'on se rend compte, en fait, que la recherche scientifique n'est pas totalement neutre, que c'est très difficile qu'elle soit neutre et objective. La recherche est orientée par des présupposés, par des idées que les chercheurs ont et qui sont inspirées par la philosophie ambiante. Et c'est le cas vraiment de la théorie de l'évolution. Et on voit bien dans le raisonnement de Thierry Tertan pourquoi cette théorie a eu autant de succès et pourquoi on la considère aujourd'hui comme une quasi-certitude. Parce qu'il y a quand même une très forte envie d'éliminer Dieu de notre vie. Et voilà, à partir du moment où on considère comme un a priori que Dieu n'existe pas, et ben on a besoin de trouver d'autres explications. Et cette théorie, en fait, vient combler un besoin existentiel.
Alors, effectivement, il ne cache pas son jeu. Et dès le début du livre, il attaque toutes les personnes qui critiquent la foi chrétienne.
Oui, et bon, alors, il montre aussi, je trouve, assez bien les contradictions qui peuvent exister et certains philosophes qui avouent eux-mêmes que, bon, bah oui, ils trouvent que l'explication de l'évolution est pas très crédible, mais comme on n'a rien de mieux, bah, on y croit parce qu'on n'a rien de mieux.
Est-ce que ce n'est pas un peu court, justement, de réduire les philosophes à cela?
Après, bah, c'est au lecteur de se faire son opinion. Voilà.
Alors, en tout cas, il fonde effectivement son argumentation sur de nombreux écrits. On a l'impression qu'il a tout lu. Il a lu les philosophes, les grands philosophes, ou en tout cas, il cite beaucoup des philosophes qui font partie de la culture européenne, surtout européenne d'ailleurs, plus que mondiale en général.
Enfin, il y a pas mal d'auteurs américains quand même, oui, qui sont cités,
oui,
aussi.
Oui, moi je veux dire occidentaux.
Occidentaux, oui,
occidentaux.
C'est vrai.
Ils ne parlent peu des religions orientales. Et...
Tout à fait, oui, c'est vrai.
Mais alors, il cite les philosophes, mais il cite aussi les mathématiciens, les physiciens, les plus récents. Il parle du champ magnétique terrestre, il parle de la thèse de l'univers jeune, le codage de l'ADN. Voilà, on est donc en plein dans l'actualité scientifique.
Oui.
Mais, évidemment, pour lui, c'est la Bible n'a pas pu se tromper et tout ce qui viendrait s'opposer à cela
sont
faibles.
Oui. Je ne le ressens pas comme ça.
Oui.
Voilà. Je pense qu'il a fait le tour des principaux arguments scientifiques qui s'opposent à la Bible et il montre leur faiblesse, en fait, le fait qu'ils sont peu fondés. Voilà. Mais après, c'est sûr que c'est une question de foi. Il ne s'en cache pas, il est croyant. Mais je crois qu'il fait quand même la part des choses et qu'il... C'est aussi pour ça que le livre parle peu de la Bible, finalement, parce qu'il ne veut pas non plus imposer une croyance quelconque au lecteur qui a bien le droit d'avoir la croyance qu'il veut. Mais il montre surtout la faiblesse scientifique.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est effectivement...
C'est ça l'idée principale.
Oui. Mais alors, par rapport à la Bible, est-ce qu'il ne faudrait pas lui suggérer de travailler avec des théologiens, justement, parce que dire la Bible... La Bible, c'est un monument en soi.
Oui, oui, oui.
Et alors, il aborde cette question. D'ailleurs, il montre, il a bien lu la Bible, il a bien lu la diversité des textes dans la Bible. Mais en même temps, la Bible ne se lit pas n'importe comment.
C'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un prochain livre.
Oui.
C'était un peu difficile de tout aborder en une seule fois.
Tout à fait.
Ouais.
Et Quel écho ce livre a eu jusqu'à présent? Vous avez des retours déjà de...
Alors, on a quelques retours qui sont, je vais être très honnête, très partagés.
Oui.
Voilà, on a des retours extrêmement enthousiastes d'une partie des lecteurs. Et puis, il y a aussi, même dans le monde chrétien, en fait, hein, des gens qui sont réticents à cette approche-là et qui n'y adhèrent pas.
Oui.
Voilà. Mais après, bah, c'est un élément posé, apporté à la réflexion. Moi, je trouve que c'est très important de proposer des approches voilà, qui ne sont peut-être pas consensuelles, mais qui permettent de réfléchir et d'avancer.
Tout à fait, oui. Et je trouve intéressant aussi la diversité, comme je crois déjà dit, la diversité des scientifiques, mm-hmm. des personnes scientifiques mentionnées, citées, et pas simplement citées. On a vraiment le sentiment qu'il connaît son sujet.
Ah ben, à chaque fois qu'il fait une citation, il a lu le livre en entier. Oui, donc, c'est oui. vrai que c'est très impressionnant l'accumulation de connaissances qu'il a eues.
Et, alors, il faut aussi ajouter, je ne l'ai pas dit, qu'il y a un certain nombre d'illustrations intéressantes.
Oui.
Illustrations, alors, est-ce qu'elles viennent de vous ou de lui seulement? De lui, certaines. En tout cas, certaines viennent de lui parce que c'est...
Oui, certaines viennent de lui.
Elles viennent à l'appui de son argumentation.
Voilà, oui, tout à fait. Et puis, oui, les photos et les graphiques et les schémas scientifiques, c'est lui qui les a choisis,
oui.
sélectionnés. Et puis, il y a aussi quelques dessins et le dessin de couverture qui ont été faits par Inès Payet, que vous connaissez peut-être ici à Nîmes, qui a été élève aux Beaux-Arts de Nîmes, avec qui j'ai collaboré sur d'autres
livres
déjà.
Oui, je crois que vous aviez déjà mentionné son nom.
Donc, c'est elle qui a fait les illustrations de ce livre.
Ouais, alors, c'est peut-être expliquer l'illustration de la couverture à nos auditeurs et auditrices. C'est l'image d'un singe?
Oui, c'est un singe voilà, qui est assis sur une branche d'arbre. Et qui est dans la nuit étoilée.
Dans la nuit étoilée, voilà. Avec comme des étoiles filantes autour d'elle. Et puis, une lune ou un soleil
Oui, alors plutôt la lune, je pense. Mais ça évoque aussi tout l'univers et la cosmologie dont l'auteur parle dans le livre. Puisque la création de l'univers, il y a aussi tout cet arrière-fond de la création des étoiles et de tout le système astral.
Et Thierry Tertan a-t-il eu l'occasion d'écrire d'autres ouvrages ou d'autres publications?
C'est son premier livre publié.
Et voilà. Il a un chantier.
Il a plein d'autres sujets en tête, oui. Mais pour l'instant, c'est le premier.
Et alors, ça va être chez vous ou bien?
Ah, je ne sais pas encore.
Pas encore.
Pour l'instant, il y a des choses en cours d'écriture, on verra pour la suite.
Ben voilà, donc Thierry Tertan, La très naïve histoire de Darwin, qu'en dit vraiment la science? C'est ce livre-là donc que vous nous présentez aujourd'hui. Mais vous avez un ou deux livres en chantier ou à apparaître prochainement?
Voilà.
Est-ce que vous pouvez en dire deux mots?
Oui, avec plaisir. Donc un livre pour les enfants 7-10 ans, les petites histoires d'Agathe, dont le premier volume est sorti il y a 2-3 ans et pour lequel on prépare un deuxième volume.
Oui. Le premier volume a bien marché.
Voilà, le premier a bien marché. Un album jeunesse aussi, qui est dans la collection des albums Légone qu'on a commencé avec le compost à émotions dont je parlais tout à l'heure.
Jeunesse et enfant, jeunesse, c'est à partir de quel âge?
Oui, alors, 10, 12 ans. Bon, jeunesse, c'est pas très précis, mais Agathe, ça va être du 7-10 ans à peu près. Oui. Et puis l'album, là, c'est à partir de 5-6 ans, un peu plus jeune. Voilà, et puis un livre pour adultes aussi, qui sera des lectures qu'on pourra utiliser en lecture et méditation quotidienne.
Méditation quotidienne.
Par un auteur suisse qui s'appelle Raphaël Nagler.
Ah oui. Là, c'est quelqu'un que vous avez déniché, qui vous a déniché?
C'est quelqu'un avec qui je suis rentrée en contact par l'intermédiaire d'une libraire avec qui je travaille.
Alors, puisque vous parlez de libraire, il faut dire que vos livres sont diffusés ici à Nîmes, alors, dans toutes les librairies, mais en particulier par la librairie Certitude.
Oui, tout à fait.
Vous avez l'habitude de la librairie Certitude qui est basée rue de la République.
Oui, et qui est extrêmement accueillante et chaleureuse.
Tout à fait.
Oui.
Voilà, mais je crois qu'on a dit l'essentiel sur vos publications, mais que vous ayez envie d'ajouter quelque chose.
Eh ben, je vous remercie beaucoup de m'accueillir.
Non, nous sommes contents d'accueillir aussi des éditeurs et éditrices. C'est toujours intéressant de savoir comment un livre naît, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là, vous arrivez très bien à expliquer de quoi il s'agit. Et merci aussi pour la lecture de ce livre. Donc, c'est pas un livre, c'est un livre de controverse, mais de réflexion très, très passionnant.
Oui, et peut-être juste un dernier mot, c'est qu'on parlait du nombre de pages, c'est vrai qu'il est épais, mais il est aussi aéré et écrit relativement gros. Donc, c'est fait pour que ce soit facile à lire quand même.
C'est écrit, c'est écrit en français courant. C'est-à-dire que tout le monde peut comprendre, c'est bien expliqué. On sent que c'est quelqu'un qui a lu des livres difficiles et qui arrive à les rendre intéressants et voilà.
Voilà.
Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour chez vous et à une prochaine pour la présentation d'autres ouvrages.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Au revoir.